coqs chanter et jour paraît, tout se debout dans les villages.
Le coq chante. Sayouba Traoré.
Aujourd'hui, nous allons participer à la foire du fourrage à Tiou, une cité à mi-chemin entre Ouaouga, la capitale de la région du Nord au Burkina Faso, et Koro, la première ville malienne après la frontière entre ces deux pays. Cette foire du fourrage est une manifestation annuelle organisée par la section locale de l'Association pour la promotion de l'élevage au Sahel et en Sabane.
Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à présent, nous allons passer à la coupure symbolique du ruban, suivie de la visite des stands. Nous invitons donc les membres du gouvernement.
L'Association pour la promotion de l'élevage au Sahel et en Savane ou APES est née en 1989 dans le prolongement d'un programme pilote sur les cultures fourragères initié par la coopération suisse au Burkina Faso en réponse aux effets des sécheresses répétitives et à leurs conséquences sur la déstructuration du milieu des éleveurs. Il s'agissait de redonner des perspectives sociales, culturelles et économiques aux éleveurs traditionnels fortement déstabilisés par la sécheresse de
1984.
La PES est organisée autour de pôles régionaux. D'abord, son secrétariat général est basé à Ouagadougou au Burkina Faso. Il y a le pôle ouest avec le centre de Thiès au Sénégal, pour la Gambie, les deux Guinées, le Mali, la Mauritanie, le Sénégal et la Sierra Leone. Le pôle centre ouest avec le centre de Douri, pour le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Mali, le Niger et le Togo. Et le pôle est avec le centre de Garoua, pour le Cameroun, le Nigeria, le Tchad et la République centrafricaine.
Donc, meilleur membre féminin, je vais appeler Madame Diko Adjaratou de Djibo.
Sur le plan administratif, le Burkina Faso est divisé en 13 régions et 45 provinces. À Tiou, nous sommes dans la région du Nord. Cette région comprend 4 provinces, le Lourou, le Passouré, le Yatinga et le Zandoma. À son tour, cette province du Yatinga comprend 13 départements. Tiou est l'un d'eux. Enfin, ce département de Tiou comprend le chef-lieu, c'est-à-dire la ville de Tiou, et 31 villages environnants, soit une population estimée à 38 047 habitants. À Tiou, l'activité, c'est essentiellement l'agriculture de subsistance et l'élevage. Il ne faut pas oublier que nous sommes en plein Sahel, ce qui fait que l'éleveur doit faire face à de nombreuses difficultés. Ici, il suffit de regarder autour de soi pour voir les effets néfastes de l'activité humaine. Des terres dégradées, un couvert végétal pauvre, la rareté sinon l'absence de points d'eau. Il se trouve que près de 85% des ménages burkinabés tirent une partie de leurs revenus de l'élevage. Ce secteur représente également environ 25% des exportations nationales. Un état des lieux avec Saïdou Koulibaly, haut commissaire de la province du Yatinga.
Oui, c'est là-dessus et l'élevage qui sont en tout cas beaucoup développés et surtout l'élevage. Vous savez que plus on avance dans cette zone, on va en tout cas vers le Sahel, qui est pratiquement la zone de prédilection en tout cas pour développer et l'élevage.
Ah, ça veut dire que comme les terres sont dégradées, il y a des problèmes de pluviométrie, maintenant on privilégie l'élevage.
C'est ça, parce que les terres sont assez dégradées, l'élevage ça réussit mieux dans cette zone. Comme vous l'avez si bien dit, c'est des zones où l'agriculture n'est pas assez développée.
Mais même l'élevage a des problèmes ici.
Bon oui, c'est comme toute zone, l'élevage ça a des problèmes, mais en tout cas qui sont tantôt liés à l'organisation même des acteurs, aux équipements et également le matériel en tout cas nécessaire pour pouvoir travailler.
Que font les services techniques pour les encadrer?
Bon, les services techniques, ce qu'ils font, c'est des missions habituelles, des missions quotidiennes. Il s'agit de former en tout cas les acteurs, les producteurs, de les encadrer et de mieux les organiser et de leur donner aussi des paquets technologiques pour qu'ils puissent développer leur élevage.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est toujours la même activité, mais vous la modernisez à la lumière de la science.
Oui, bien sûr, c'est une activité qui se modernise. Vous savez que ici, dans la zone de Tiou, pratiquement dans les 13 communes de la province, il y a des services départementaux qui est chargé de l'élevage. C'est pour mieux encadrer les producteurs et ça mieux produit.
D'accord. Et nous venons d'assister à une foire. C'est quoi cette foire?
Bon, c'est une foire qui est organisée par l'APES, qui est une association qui regroupe les éleveurs d'un certain nombre de zones, et notamment la province d'Yatenga. C'est une initiative qui est à saluer parce qu'elle contribue à booster l'élevage dans la province du Yatenga et dans tout le Burkina Faso. Parce que vous savez que c'est une association qui est sous-régionale, parce que ça regroupe beaucoup de pays, en tout cas les Africains, dont en tout cas le Burkina Faso fait partie. Cette foire, c'est pour permettre aux producteurs, aux éleveurs, de produire avec des moyens modernes et en tout cas de présenter l'air aux produits. Ça a un jury, en tout cas qui a primé les meilleurs, mais vous l'avez constaté et par vous-même, tous les producteurs sont méritants. Les gens utilisent les paquets technologiques qui leur ont été donnés par les services techniques. Donc il y a eu des prix, salant des charrettes, des brouettes, du matériel donc, pour pouvoir y travailler dans le domaine de l'élevage.
Je vous remercie.
Merci bien.
Kiema Pierre est le préfet et président de la délégation spéciale de la commune du Thiou, c'est-à-dire qu'il fait office à la fois d'administrateur et de maire. L'occasion de voir avec lui ce qu'il en est de l'élevage dans sa circonscription.
Ah, les problèmes sont assez nombreux. Hein. Il y a les conflits entre agriculteurs et éleveurs. En dehors de cela, il y a des problèmes pour exercer et sereinement leur métier. Alors, les problèmes peuvent se résumer en manque de moyens. Et il y a aussi le problème climatique, parce que le climat, c'est pas facile.
Ah, ça veut dire qu'il y a une compétition pour l'occupation de l'espace, d'où des conflits.
Oui, bien sûr. Mais il y a ce problème. Mais il y a aussi le fait que, ici, l'élevage n'est pas de façon intensive, mais c'est de façon extensive. Donc, les gens, ils laissent les animaux qui se baladent, qui vont, qui font des dégâts de champs. Et ça crée des conflits entre ces acteurs.
Et en cas de conflit, c'est à vous, administrateur, de gérer ça.
Oui, tout à fait. Parce qu'ici, au niveau du département, moi, j'ai aussi en charge un tribunal qu'on appelle le tribunal départemental et nous gérons les conflits. La loi a fixé une fourchette des conflits pour lesquels nous sommes compétents pour gérer. Par exemple, quand le conflit, on estime la valeur du dégât des champs, par exemple, à plus de 100 000 francs, nous ne sommes plus compétents pour gérer cette affaire.
Là, c'est l'échelon supérieur.
Voilà, là maintenant, c'est le tribunal de grande instance qui s'en charge.
Alors, l'autre problème, c'est les questions d'eau.
Ici, c'est vraiment une préoccupation assez majeure parce que nous n'avons qu'un seul barrage. Et les barrages, quand les techniciens me disent qu'il est en dessous sablé.
Il est en dessous sablé.
Il est en dessous sablé. Et que c'est même très avancé. Et c'est une préoccupation. Parce qu'ici, si nous regardons un peu le nombre d'acteurs qui se nourrissent autour du barrage, c'est assez important.
Donc, c'est un point d'eau important.
Très, très important. En tout cas, pour la vie économique de la commune, c'est très, très important. Et si d'aventure, ce balade venait à s'ensabler, moi, je dirais que c'est une catastrophe. Voilà.
L'autre problème, c'est le problème du fourrage, vous m'avez dit.
Oui, le fourrage. Parce que comme vous savez, il ne pleut pas assez bien, alors on n'a pas assez de fourrage. Et c'est à cela que moi, j'ai salué les actions de l'APS, alors qui va permettre aux producteurs de se former alors pour des bonnes pratiques.
Donc on a des maigres ressources et il faut tout faire pour exploiter ces maigres ressources-là.
Tout à fait, parce qu'on est obligé de vivre. Et ici, l'activité principale des citoyens, c'est l'agriculture, c'est l'élevage. Et l'élevage occupe un part très important dans les économies familiales.
Je vais essayer de comprendre, c'est-à-dire que l'agriculteur est pauvre, l'éleveur est pauvre, les municipalités sont pauvres.
Oui.
Et vous-même, vous n'avez pas toujours les moyens de votre politique.
Tout à fait. C'est de cela. Ouais, nous vivons comme ça dans un environnement assez difficile, il faut le dire. Mais maintenant, il nous appartient de nous organiser. Parce que moi, j'ai toujours dit, si on doit évoluer comme ça sans organisation, c'est assez difficile. Par exemple, je vous parlais tout à l'heure du cas du barrage. Bon, voilà des gens comme ça qui ne peuvent pas comprendre, qui vont aller jusqu'au lit pour exploiter.
Ah oui, j'ai vu qu'on creusait dans le barrage de Puisard.
Oui, tout à fait. Parce que maintenant, pour les faire comprendre que cette pratique, ça va envoyer les barrages à s'ensabler rapidement, ils ne peuvent pas comprendre. Mais là, c'est un problème d'organisation. Moi-même, j'ai essayé de les organiser à travers des rencontres, mais je vois qu'il y a déjà beaucoup sont réticents.
Ils n'arrivent pas à comprendre.
ils n'arrivent pas à comprendre, ils ne veulent pas comprendre. Et ça aussi, c'est une difficulté. Et nous, en tant qu'administrateurs et en tant que gestionnaires de la chose publique, et nous aussi, nous devons d'intervenir quand on prévoit, nous essayons de prévoir et d'intervenir. On essaie de faire, on n'a pas le choix de toute façon, parce qu'on est obligé de réussir.
Je vous remercie.
Merci bien.
Obligé de réussir parce que le secteur de l'élevage a un rôle fondamental à jouer dans l'amélioration des moyens d'existence de 5,5 millions de pauvres au Burkina Faso. Il faut donc accepter de faire évoluer la tradition. Par exemple, se faire à l'idée que l'explosion de la démographie, combinée avec la dégradation de l'environnement, ne permette plus de continuer à faire un élevage avec des périodes de transhumance. Parce qu'on ne peut plus faire comme avant en se contentant d'aller prendre ce que la nature donne, il faut sédentariser l'activité, diminuer le nombre de ces bêtes et cultiver du fourrage pour les nourrir. Et cette nouvelle orientation commence déjà au niveau des services de l'État. Madame Ilibudo Drabo-Omo est directrice régionale des ressources animales du Nord.
Nos services sont là pour la promotion des activités de l'élevage, pour le développement et l'accroissement de la production de l'élevage au niveau de la région du Nord.
Ça recouvre beaucoup de choses.
Oui, parce qu'il y a la promotion des cultures fourragères comme la fauche et conservation du fourrage dont le chef vient de faire le concours tout de suite. Concours meilleur producteur de fourrage, ça fait partie des activités phares du ministère des ressources animales. Voilà. Donc vraiment, l'initiative du chef est très noble pour l'élevage. Parce qu'il permet de faire la promotion des cultures de fourrage, de cultiver, de faucher, de stocker, de conserver du moins et de stocker pour les animaux.
Vous êtes une technicienne, comment on fait ce travail de culture de fauchage?
Pour ça, les cultures de fourrage, nous faisons des sensibilisations, on donne des semences fourragères aux producteurs. Il y a des séances de sensibilisation, d'information, comment perdre la culture du fourrage, comment cultiver, comment faucher, comment conserver dans les fenils pour les animaux. Tout ça, c'est des activités qu'on mène sur le terrain.
Alors, comment conserver?
Il y a des techniques, il y a des mises en botte qui sont des techniques pour la conservation au niveau des fenils. Voilà, c'est, par exemple, il y a des caissons, il y a des botteleuses, il y a les tiges, on les met au niveau des arbres, tout ça là, pour la conservation.
Ce que vous appelez botteleuse, c'est la caisse là où on met le foin et puis on fait la botte.
Il y a plusieurs manières. Bon, les botteleuses, ça c'est à part, c'est ça moi j'ai amené ce matin. Voilà, on met la paille dedans, on presse et puis on fait sortir, on met.
Là on peut conserver le fourrage longtemps.
Ça c'est la mise en botte. Après on les conserve dans des fenils, voilà, ou bien des maisons inhabitées, ou bien dans des cases. La conservation aussi, c'est très important, parce que si le fourrage se dégrade, voilà, ce n'est pas vraiment très appétitif pour les animaux.
Donc nous allons inviter la directrice régionale des ressources animales du Nord pour émettre le prix différents bénéficiaires.
Au Sahel, on a 3 mois de pluie et 9 longs mois de saison sèche pendant laquelle les animaux et les hommes souffrent. Traditionnellement, l'éleveur va en transhumance avec son troupeau pendant ses 9 mois de sécheresse à la recherche de pâturage et de points d'eau. On a vu que cela n'était plus possible partout. L'urbanisation et les équipements publics morcellent l'espace. L'accroissement de la population se traduit par l'extension des superficies cultivées aux dépens des éleveurs. Cette réserve de fourrage devient vitale.
Surtout pendant la période de sécheresse. Voilà. Et puis on le complémente avec les sous-produits agro-industriels que le ministère nous donne chaque année à un prix subventionné.
Ce que vous appelez SPAI.
SPAI, sous-produits agro-industriels.
C'est composé de quoi?
C'est de tourteaux, de grains de coton, des résidus de récolte. Voilà. Qu'on donne aux producteurs à un prix subventionné par le ministère chaque année.
À subventionner parce qu'il n'a pas toujours l'argent.
Parce que le prix est vraiment très élevé. Les producteurs n'ont pas les moyens pour payer. Par exemple, c'est à 7000 francs au marché. Alors que le ministère nous donne 3000-3500. Voilà. Donc ça, c'est un prix subventionné à moitié prix.
Ah, c'est le tourteau de coton qu'on fait venir de Bobo, là.
Voilà, tourteau de coton, les graines de coton. Voilà.
Le fourrage seul ne suffit pas. Il faut ajouter ça.
Voilà, il faut ajouter ça pour complémenter les animaux. Voilà. c'est surtout pendant la période de sécheresse, mm-hmm. parce qu'ici, il n'y a pas assez de fourrage. Mm-hmm. Tout ce que vous avez vu là, c'est mm-hmm. du fourrage cultivé, mm-hmm. des semences, des niébés fourragés, des maïs fourragés, mm-hmm. du sorgho fourragé. Mm-hmm. Fourrage naturel, là, vous voyez, le pâturage est pauvre, il n'y a pas de fourrage naturel. Mm-hmm. Il faut qu'il y ait du fourrage cultivé. Mm-hmm. C'est ça comme ça on vient de voir ce matin.
Voilà. Est-ce que tous les éleveurs comprennent ça?
Bon, avec la pièce en tout cas, sur le terrain, ils sensibilisent ces éleveurs. Ils sont au nombre de combien? Il a parlé de ça ce matin, c'est environ 400 membres. Donc chaque fois, ils sensibilisent en collaboration avec les agents techniques qui sont sur le terrain pour la sensibiliser les producteurs, comment on doit cultiver, comment on doit faucher, comment on doit conserver et comment on doit mise en botte. Et puis la conservation.
Ça veut dire que vos agents sur le terrain passent le temps en conscientisation
quoi? Tout à fait. Ils sont toujours disponibles vraiment à accompagner ces bras producteurs sur le terrain pour l'objectif ou bien l'atteinte de la mission vraiment de l'APS.
Si j'ai bien
la promotion de la culture, et la promotion de l'activité, de l'élevage. Voilà. Et
si j'ai bien compris, Madame Bidiboudou, vous intervenez dans une zone avec le secret espoir que les voisins du producteur vont venir regarder ce qu'il fait.
Tout à fait, c'est ça la même, j'ai dit c'est une très belle initiative à encourager. Même ceux du Mali à la frontière, ils peuvent venir voir ce que la PSC a fait pour ses producteurs. Le fait de les encourager, ça va inciter d'autres producteurs à cultiver le fourrage naturel, le fourrage cultivé du moins pour les animaux.
Je vous remercie.
Je vous en prie.
Le docteur Tamboura Amidou est chercheur à l'Institut de l'Environnement et de la Recherche Agricole en Sciences Animales. Cet INERA est l'un des 4 instituts de recherche du Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique. C'est une structure publique spécialisée qui se trouve à la jonction de beaucoup de choses, puisqu'elle s'occupe de la production végétale, la production animale, la production forestière et la gestion des ressources naturelles.
Il y a des problèmes. Le premier problème, c'est le problème alimentaire. Ressources naturelles qui sont la base de l'alimentation de nos systèmes d'élevage traditionnels. Ces ressources diminuent d'année en année, parfois à vue d'œil même. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Il suffit de passer dans les différentes zones de la commune, sinon de la région. Vraiment, vous ne trouverez pas grand-chose pour un cheptel qui s'accroît vraiment d'année en année.
Mais dans ces conditions, qu'est-ce que vous recommandez, vous, INERA?
Bon, nous sommes en train d'essayer, avec les éleveurs eux-mêmes, plusieurs alternatives. D'abord, la première, c'est aménager ces zones-là. Vous avez déjà le premier exemple, la zone pastorale que le chef a initiée. Donc, on va l'appuyer pour trouver un modèle d'aménagement qui permette de régénérer un peu les ressources, malgré la pauvreté des sols. Mais également d'introduire certaines espèces fourragères ou ligneuses qui vont permettre d'améliorer un peu le couvert végétal. Mais il y a l'aspect hydraulique, pastoral aussi, qui vraiment demande à être revu. Donc des forages pour l'eau des animaux, pour les hommes aussi. Et puis bon, il faut aussi revoir la gestion même du troupeau. C'est vrai, les ressources naturelles, il faut les améliorer, mais il faut que l'homme aussi apprenne à mieux gérer le troupeau qu'il a, comment produire, j'allais dire, sans dégrader les ressources.
C'est quoi cette zone pastorale, docteur?
C'est une zone de leur terroir qu'ils ont délimitée. Bon, elle n'est pas encore officiellement, sensu stricto, une zone pastorale, mais ils veulent en faire une zone pastorale. Et ça implique pas mal de choses qui demandent qu'ils s'accordent sur un certain nombre de principes de gestion entre utilisateurs des mêmes zones, des mêmes ressources. Et ça, c'est une charte qu'ils doivent définir entre riverains et voisins autour de cette zone, que chacun doit respecter.
Est-ce que ça veut dire que c'est une zone réservée exclusivement à l'élevage?
C'est eux qui doivent décider. C'est pour ça qu'on dit charte. Il faut qu'eux-mêmes s'accordent. S'ils sont d'accord pour que ça soit réservé à l'élevage, ils la réservent à l'élevage et à ce moment, ils édictent des principes pour qu'aucune autre activité, autre que celle qu'ils ont acceptée, ne soit menée dans la zone. S'ils veulent que ce soit pastoral uniquement, ça va être ça. S'ils veulent donner une portion dedans à autre chose, c'est encore eux qui vont s'accorder.
Vous avez parlé d'aménager cette zone. Qu'est-ce qu'il faut faire dedans?
L'aménagement a plusieurs aspects. S'il y a des espèces fourragères, herbacées ou bien des arbres qui manquent, on peut faire cet apport en semences. On peut également, il y a des parties dans cette zone-là qui sont très très dures. C'est sec, des cailloux qui affleurent. Il y a des différents types d'aménagements pour casser ces structures-là, afin que l'eau, quand il pleut, puisse s'infiltrer et permettre aux végétaux de... Il y a également l'aspect ressources en eau. Il faut trouver le moyen de placer des points d'eau, que ce soit des forages ou des petits creux, en différents endroits de la zone, pour qu'il n'y ait pas trop de concentration d'animaux au même endroit. Ça permet d'équilibrer la pression des animaux dans la zone, ainsi de suite. Donc c'est, entre autres, les aménagements qu'on peut faire dans une zone pastorale.
On vous dit bon courage.
Merci, et surtout bon courage aux utilisateurs des ressources.
Ok, merci. Merci.
Le chef dont tous parlent, c'est l'émir Dibrulu Diallo, 16e chef de canton du Thiou et responsable de l'antenne locale de l'Association pour la promotion de l'élevage au Sahel et en savane. C'est l'homme qui a initié cette foi du fourrage.
Ça a commencé, ça fait déjà 4 ans. On est à la 5e année. Et nous faisons la promotion de la fourche et de la conservation du foin. Parce que le foin naturel ne pousse pas beaucoup. Nous sémons, nous cultivons le fourrage. Notamment le niébé fourrager, le sorgho fourrager et le soja fourrager.
Alors quand vous dites niébé fourrager, qu'est-ce qu'il a de particulier?
Le niébé fourrager, c'est l'un des meilleurs fourrages aujourd'hui. Vous avez suffisamment de la farine et beaucoup de graines pour les animaux. Donc c'est à double usage. Mm-hmm. Et ça s'appelle la 11P45. C'est une recherche du Burkina Faso.
En fait, c'est une semence qui a été sélectionnée.
Il y a deux semences qui sont très bonnes au Burkina. Il y a la 11P45 qui est un niébé. Et il y a la Sariasso 11 qui est un sorgho, qui donne beaucoup de graines et beaucoup de fourrage.
Donc en fait, vous, en tant qu'association, vous êtes allé étudier ça à l'INERA et vous avez décidé de vulgariser.
En fait, quand les instituts de recherche se sont rendus compte que nous étions intéressés par la culture fourragère, ils nous ont envoyé des étudiants en fin de stage qui sont venus faire leur pratique et nous en avons profité.
Donc, vous avez fait ça où?
Nous avons fait ça à Thiou. À Bango, à Nordin et à Sénoani. Et pendant 6 ans, des étudiants sont venus faire 2 ans chez nous. L'IDR de Bobo, l'INERA de Ouagadougou, ILRI et d'autres structures encore qui sont dans la recherche.
Alors quand vous avez vu que cette semence produisait bien, comment ça s'est passé après?
Chaque année, on allait acheter des semences de base pour venir ajouter à nos semences de la génération 2 ou génération 3. Parce qu'après la semence de base, quand on récolte une fois et qu'on va semer, c'est la génération 1. Et ensuite, c'est la génération 3. Et nous, on arrête à la génération 3 et on repart directement à la semence de base, qui est un peu chère.
Donc, ça veut dire que de plus en plus que vous l'utilisez, il perd aussi ses qualités.
Oui, plus il dure sur le terrain, il perd ses qualités. Parce que si vous aviez une tonne de fans de niébé fourrager à l'hectare, la deuxième année, si vous utilisez les mêmes semences, vous aurez peut-être 900 kilos. Et 2 ans après, vous pouvez avoir 800 ou 750 kilos. Mais quand c'est toujours la semence de base, vous avez au maximum une tonne de fourrage et au moins 900 kilos de graines.
Et il a fallu vulgariser ça?
Bon, c'est vulgarisé dans la région. Parce qu'il y a des familles qui ont arrêté de produire les céréales habituelles. Parce qu'ils gagnent. C'est et du fourrage et des graines pour nourrir sa famille.
Il reste quand même un grave problème parce que tous les intervenants m'ont dit qu'ici il y avait un problème d'eau.
Il y a un problème d'eau ici. Mais nous utilisons les zaïs et les demi-lunes pour récupérer l'eau. C'est des pratiques très connues dans la région. C'est des petits trous que vous creusez. Vous mettez de la fumure organique dedans. Et dès qu'il y a, même si c'est 2 mm de pluie, l'eau est retenue dans ces trous-là pour une semaine. Et nous sommes actuellement en train d'essayer l'association légumineuse sur culture céréalière, c'est-à-dire le sorgho fourrager et le niébé fourrager, on les met sur le même champ. Et là, on n'a plus besoin de payer de l'urée, parce que le niébé fournit lui-même son azote. Donc nous mettons seulement de la fumure organique et ça marche en associant les deux cultures. Donc c'est une autre expérience qu'on est en train de faire avec l'IDR. Et nous associons aussi une autre plante très connue dans cette région-là qui s'appelle le mukuna, une plante rampante. Dès qu'il y a une petite pluie, comme elle est rampante, les vents ne soufflent pas les sols et les sols peuvent durer une semaine sans sécher. Et il n'y a pas d'érosion. Donc nous utilisons également le mukuna qui est alimentaire et qui nourrit les animaux également. Les gens commencent à ne cultiver que du niébé et du sorgho fourragé. Les gens utilisent les aïes et les demi-lunes pour retenir l'eau. Les gens utilisent les fosses fumières pour avoir de la fumure organique. Donc, il y a du changement.
Donc, en fait, en combinant toutes ces techniques-là, on arrive à s'en sortir.
Bon, on arrive à s'en sortir quand on a un minimum de pluie. L'année dernière, par exemple, les pluies étaient mal éparpillées dans le temps. Il y a eu un temps où on a traîné avant de pouvoir s'aimer. Et puis, ça s'est arrêté vite. Bon, on a eu un peu, mais ce n'était pas ce qu'on attendait.
Je vous remercie.
Merci.
Nous étions aujourd'hui à la foire du fourrage à Thiou dans la région du Nord au Burkina Faso. Il y avait à la réalisation Eva Mouchinski, au micro Sayouba Traoré. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur le site www.rfi.fr, rubrique émission. Pour nous écrire, lecoqchante@rfi.fr. Vous pouvez également consulter notre page Facebook, Le Coq Chante.
RFI.